poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Le plus grand plaisir qui soit après l'amour est d'en parler, écrivait-elle en 1555. Aujourd'hui, éloge de l'écriture et affirmation de soi avec Louise Labbé.
Kiss me again.
Kiss me again.
Re-kiss me.
Re-kiss me.
Kiss me.
And kiss me.
Slip your frigid hands
beneath
my shirt. This useless
old fucker
with
his twinkling cunt
doesn't care
if he gets hurt.
Nick Cave and the Bad Seeds, Green Eyes, un extrait de l'album The Boatman's Call en 1997, hein, pour ouvrir cette demi-heure. Et on y reconnaît, si on tend l'oreille, on y reconnaît un vers. Le vers de Louise Labbé en anglais, hein, Baise-moi, baise-moi encore, emprunté à son célèbre sonnet 18. Michel Clément et Michel Jourde, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux. Alors, il y a Nick Cave en 97, il y avait déjà et aussi la traduction en anglais en 1584, je crois, de son débat sur la folie et l'amour. Chaque époque a voulu reconnaître quelque chose d'elle-même dans les œuvres de Louise Labbé, la Lyonnaise. Écrivez-vous dans l'un des dossiers qui accompagnent les œuvres de Louise Labbé parues en poche chez Flammarion. Et nous, qu'est-ce que notre époque, à nous, a voulu y reconnaître, hein.
Bah d'abord, comme toutes les époques, un discours sur l'amour. Je pense que c'est la première chose. On lit Louise Labbé quand on a envie de s'identifier à une parole amoureuse, reproduire une parole amoureuse, partager une parole amoureuse. Et puis on la lit aussi, bien sûr, depuis au moins un siècle, pour des raisons féministes. Parce qu'elle produit un discours d'émancipation, un discours d'autorisation de la femme dans l'espace public.
Parce que vous n'hésitez pas d'ailleurs dans la préface, hein, ce qui peut poser question, vous n'hésitez pas à utiliser le terme de féminisme même pour parler de la Louise Labbé du XVIe siècle.
Oui, alors on le fait avec beaucoup de prudence,
Michel,
en historicisant la notion.
Et vous employez le terme de féminisme.
Absolument. Voilà. On raconte aussi à quel moment le mot apparaît dans les discours sur Louise Labbé. Il apparaît au début du XXe siècle dans la thèse faite à Paris par une Anglaise et qui est la première à utiliser le mot entre guillemets, mais pour parler de Louise Labbé. Mais ce qu'on raconte aussi, alors très en amont, c'est comment, dès le XVIIIe par exemple, son nom et ses œuvres sont mobilisées dans des discours visant une émancipation des femmes. Par exemple, dans les premières anthologies d'écrits de femmes ou les premiers travaux qui essaient d'écrire une histoire de la littérature faite par des femmes. Et c'est un nom important à cet égard. Et si on remonte encore, effectivement, ce qu'on propose, c'est de situer la création de l'œuvre en 1555 dans un contexte qui est celui d'une promotion des autrices. Et c'est un contexte italien dont le livre de Louise Labbé est vraiment une sorte d'écho français. Mais en fait, il se passe depuis 10 ans à ce moment-là, plein de choses en Italie sur l'arrivée de signatures féminines.
Alors, on va y revenir bien sûr, mais sur cette réception un petit peu agitée. Alors c'est vrai qu'elle a été pas longtemps, mais un petit peu oublié quand même, pendant un petit temps. Et puis après, au 18e, effectivement, relu. Et puis au 19e, massivement mobilisé. Qu'est-ce que ça pourrait dire de ce siècle-là, qu'on ait eu tant besoin de Louise Labbé au XIXe siècle?
Au XIXe, ce sont les poètes qui s'en emparent, et les poétesses en particulier, beaucoup. Donc à partir de Marceline Desbordes-Valmore prioritairement. Donc il y a une lecture romantique. Il ne faut pas avoir peur du mot, je pense que c'est vraiment une lecture romantique, donc anachronique de Louise Labbé. Chaque époque s'approprie Louise Labbé, donc la lit avec ses propres filtres. Et la façon dont Marceline Desbordes-Valmore lit le personnage, à la fois dans un isolement splendide et comme un personnage très pathétique sur les bords de la Saône lyonnaise, voilà, c'est une version romantique. Et c'est pour ça que les femmes commencent à lire, les femmes poétesses commencent à lire et à utiliser le nom de Labbé.
Le nom et alors aussi chacun choisit ce dont il a besoin, parce qu'il y a les sonnets, mais il n'y a pas que les sonnets, il y a plusieurs genres d'écriture chez Louise Labbé, et j'imagine qu'au XIXe siècle, ce sera davantage le sonnet.
Oui, ça voilà. C'est lié voilà, au retour au sonnet qui se fait autour de Sainte-Beuve, puis Baudelaire, etc. Enfin, ce renouveau d'intérêt pour un genre qu'on ne pratiquait plus. Et dans ce cadre-là, le texte de Labbé parle plus au lecteur du 19e que d'autres textes du 16e siècle, parce que d'une certaine manière, il est moins érudit. C'est-à-dire, il est moins inaccessible, comme ça, il est moins hérissé de références érudites. Et donc, il se prête à cette lecture romantique d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une poésie du cœur qui parlerait directement. Alors, tout ça est plein d'illusions. Et évidemment, c'est une illusion parmi d'autres, enfin, dans l'histoire, mais ça fonctionne comme ça. Et ce qui est frappant, c'est que ça fait contraste avec la première réception du livre qui mettait au premier plan le texte en prose, le débat de folie et d'amour, jusqu'au 18e. C'est vraiment... Alors que les poèmes sont très peu cités.
Alors, je vous posais la question de sa réception un peu agitée, parce que cette émission fait suite à une autre, il y a quelques mois, au moment où paraissaient les œuvres complètes de Louise Labbé en Pléiade, sous la direction de Mireille Huchon. Et Mireille Huchon est de celles et de ceux, parce que d'autres chercheurs partagent ces conclusions, qui voient en Louise Labbé une créature de papier, une construction, un jeu, une fiction, imaginée par un groupe de poètes masculins. Ce qui nous avait d'ailleurs valu quelques messages d'auditeurs outrés. Alors au-delà du fait qu'il est évidemment désagréable de voir une des rares femmes inscrites dans l'histoire de la poésie effacée, mais ça, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui, pour vous, viendrait contredire cette thèse-là, celle de la supercherie qu'on entend, ça et là? Michel Jouande.
Avant de la contredire, il faudrait d'abord qu'elle soit probante. Et en fait, le problème commence d'abord dans le fait qu'il n'y a pas de preuves pour avancer une supercherie, une contrefaçon, une invention d'autrice, hein, puisque c'est ça la thèse de Mireille Huchon depuis une quinzaine d'années, bien avant la Pléiade. Et en fait, cette invention d'une autrice n'est pas étayée. Donc c'est une hypothèse tout à fait recevable dans la mesure où Louise Labbé est extrêmement étonnante sur la scène littéraire. L'arrivée des œuvres de Louise Labbé provoque un étonnement qui peut provoquer un soupçon. Donc, des hypothèses, mais ces hypothèses, tant qu'elles ne sont pas étayées, pour nous, on voit pas comment on viendrait les contrer, puisqu'elles ne sont pas étayées.
De quoi sera fait cet étonnement, alors?
L'étonnement de l'arrivée de Louise Labbé sur la scène. L'étonnement, c'est le titre, les œuvres de Louise Labbé lyonnaise. C'est cette assurance avec laquelle une poétesse qui n'est personne, qui n'est encore personne en 1555, s'avance sur la scène derrière un nom aussi prestigieux, enfin un mot aussi prestigieux que œuvre, et à une époque où il n'y a presque aucune autrice, enfin les autrices vivantes publiées, bon c'est essentiellement Marguerite de Navarre et Lisaine de Crède, elles sont trois ou quatre à cette date-là, donc il y a une assurance, et l'assurance est d'autant plus forte que c'est une roturière. Donc c'est ça la deuxième surprise. Bon, bien sûr, c'est une femme.
Ce qui la rend suspecte aussi.
C'est ça qui la rend suspecte. C'est le fait que ce soit donc une femme roturière, fille de cordier, femme de cordier, sœur de cordier. Et cette incapacité à avoir eu une éducation aristocrate rend encore plus improbable l'accès à la scène littéraire. Voilà, donc l'étonnement, il est partout. Au plan social, au plan genré. Sinon qu'on est sur un modèle italien. Et donc voilà. Là, l'étonnement se réduit.
Et là, Michel Jouande. En fait, l'hypothèse repose sur... Il y a vraiment une forme de... enfin, on enlève le livre à une figure, qui s'appelle Louise Labbé, mais qui n'est pas du tout la Louise Labbé qui a réellement existé. C'est-à-dire celle qu'on peut cerner, contrairement à ce qui s'est beaucoup dit, le fait qu'il n'y avait pas d'archives, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas voulu les regarder, les archives. Donc nous, on les a réunies, on les rend accessibles. Et c'est pas
visible, là, en l'occurrence, là, dans l'édition dont on parle, puisque
voilà,
vous les donnez à voir. Oui.
Ouais, c'est ça. Et donc, ce qu'on découvre de cette figure, c'est parfaitement en conformité avec ce que le livre laisse imaginer. C'est-à-dire, c'est une femme qui est dotée d'une autonomie sociale très singulière, donc qui vient effectivement pas d'un milieu lettré, mais d'un milieu où il y a de l'argent. Et cet argent, elle décide de l'utiliser elle-même, pour elle-même. C'est ce que montrent, par exemple, des archives bancaires. Elle possède, vous savez ce que Virginia Woolf dit, que la sœur de Shakespeare pouvait pas écrire parce qu'elle n'avait pas 500 livres de rente et une maison à elle, une chambre à soi. Et c'est exactement ce qu'a Louise Labbé. C'est-à-dire qu'elle, alors qu'elle est mariée, elle fait fructifier son argent pour son propre compte. Ce qu'on voit dans les archives. C'est ce qui est très singulier, vous voyez, sur l'autonomie d'une femme. Et elle s'achète une maison à elle, qu'elle lègue à un Italien lettré, érudit, un ami à elle, qui s'appelle Tommaso Fortini, qui participe au débat sur Pétrarque, sur la poésie. Et elle lui lègue cette maison en interdisant à ses autres héritiers, qui sont ses neveux, de demander le moindre inventaire de ce qu'il y a dans la maison. Donc elle affirme, même dans son testament, elle affirme vraiment son autorité, son autonomie. Donc, évidemment, ça dissipe la surprise que peut constituer le fait qu'elle ait demandé un privilège royal pour publier ses œuvres. C'est conforme à son identité, à condition de bien vouloir regarder cette identité.
Vous écrivez d'ailleurs toujours dans cette préface, autant le dire tout de suite, on ne sait pas qui Louise Labbé aima ou qui elle n'aima pas, avec qui elle dînait, quelle fut sa moralité, et l'on n'est pas certain que cela ait quelque importance que ce soit pour la lecture de ce livre. Qu'est-ce qu'on sait, malgré tout, véritablement d'elle, à quel monde elle appartient? Parce que c'est vrai que la suspicion, elle passe aussi, où on se pose la question de savoir comment elle a pu avoir accès à une telle culture. Hein. En l'occurrence, on va parler des sonnets tout à l'heure, qui sont assez frais, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'en France on fait des sonnets. Donc par où ça passe?
Une des clés, c'est que le premier sonnet, justement, est italien. C'est-à-dire, ça montre l'imprégnation italienne de ce monde, du monde lyonnais dans lequel elle évolue. Et un personnage clé, assurément, c'est celui qui va être donc son exécuteur testamentaire et sans doute très proche d'elle. Depuis qu'on cherche des archives sur elle, c'est-à-dire depuis le 18e, on s'est beaucoup questionné sur son éducation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle aurait eu une éducation lettrée? Et en fait, la clé n'est sans doute pas là. Elle est dans le fait que son aisance sociale la place dans un milieu d'argent qui est aussi un milieu cultivé. C'est le milieu italien ou italianisé de Lyon. Les gens d'argent, par exemple, les banquiers, sont aussi ceux qui organisent les concerts, la vie musicale. Enfin, ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles. Et Louise Labbé, elle est vraiment là. Elle est dans ces banques-là. On a retrouvé ses archives bancaires et ça. Elle nous montre ça, elle évolue là-dedans, et donc elle connaît ces modèles littéraires italiens, d'une certaine manière, elle les imite, elle les transpose, ou elle profite de leur existence pour inventer quelque chose à elle.
Qu'est-ce que c'est que d'être une femme poète au milieu du XVIe siècle, à Lyon?
Ben justement, ça dépend du statut social. Si on est Marguerite de Navarre, qui est sœur du roi, qui est très souvent à Lyon, qui vit très souvent à Lyon, puisque la cour est très souvent à Lyon dans les années 20, 30, début des années 40, ça n'est pas la même chose que pour une roturière. Mais là, c'est vraiment un problème de milieu et de réseau. C'est-à-dire, Louise Labbé est dans ce réseau italien, florentin. Donc, être une poétesse à Lyon, c'est vivre dans une culture partagée. Je crois que c'est ça, c'est une culture d'imprégnation. C'est ce que dit Roger Chartier quand il parle des usages de l'imprimé. On se partage les imprimés, on se dit les imprimés, on se lit la poésie. Donc, certes, elle n'est pas allée à l'école, ni au collège humaniste, encore moins à l'université, mais elle a bénéficié de toute cette culture partagée, à la fois du milieu italien, florentin, autour de Tommaso Fortini, mais aussi certainement autour des poètes lyonnais qui vont donner des pièces aux écrits, dans les écrits des divers poètes, à la louange de Louise Labbé.
Il faut rappeler donc après les sonnets. On a parlé déjà de la première partie qui est avant les sonnets, puis les sonnets, puis les textes qui font l'éloge de Louise Labbé en divers langues aussi d'ailleurs, en divers langues qui font suite et qui sont publiés dans ce même volume en 1555. On imagine probablement parce que c'est une femme.
Voilà, puisque là, le modèle, l'idée que dans un livre de poésie, on ait décené des poèmes d'autres auteurs qui viennent dire les louanges, ça c'est classique, mais que ça occupe une telle place, c'est typique des livres de femmes en Italie. Hein, c'est-à-dire que quand on ne regarde que le Louise Labbé, on est surpris parce qu'on se dit, mais il n'y a que 24 sonnets de Louise Labbé et puis il y a 24 pièces d'autres poètes derrière. Et en fait, là, le modèle, c'est exactement le dispositif de ce qui se passe dans les livres italiens, de Tullia d'Aragona, de Laura Terracina. C'est exactement construit de la même manière. Pourquoi ? Parce que la nouveauté de la signature féminine a besoin d'une escorte masculine. Geste très ambigu, puisqu'évidemment, ça consacre l'autorité du nom de la femme, mais en même temps, ça en fait une exception, quelque chose qu'on cerne un peu avec des paroles d'homme.
Ça a duré bien longtemps, cette affaire-là, par ailleurs. Ce tout petit et unique livre de Louise Labbé, c'est donc 176 pages publiées à Lyon à la fin de l'été 1555, hein, je vous cite, composé d'un épître liminaire, donc un dialogue en prose, trois élégies, 24 sonnets, suivis donc de ces 24 pièces poétiques écrites par d'autres, donc à la louange de l'autrice. C'est donc aussi une opération d'édition, c'est aussi assez exceptionnel à cet égard. Quel accueil était espéré par l'éditeur, par Jean de Tourne? Quelles sont les attentes du lecteur à ce moment-là? Ou alors, qu'est-ce qu'il pouvait espérer des lecteurs à ce moment-là?
Alors, ce qui est très clair, c'est qu'à ce moment-là, il y a une attente d'œuvres féminines, en France, pour le coup. Hein. Peut-être sous l'influence italienne, puisqu'on publie les italiennes depuis la fin des années 30, hein, depuis Vittoria Colonna, on a parlé tout à l'heure, hein, Tullia d'Aragona, Gaspara Stampa, les années 30, 40, 50. Mais à Lyon, Jean de Tourne, qui sera l'imprimeur et le libraire de Louise Labbé, a déjà donné des œuvres de femmes. Il a déjà publié Marguerite de Navarre, il a déjà publié Pernette Duguillet, et Louise Labbé, c'est sa troisième autrice, c'est la troisième autrice qu'il va favoriser en lui donnant une édition particulièrement soignée, un livre particulièrement, un écrin, en quelque sorte, un écrin matériel pour cette poésie exceptionnelle, hein, et c'est cette prose exceptionnelle de Louise Labbé. Donc voilà, il y a une attente des lecteurs. Et il y a un milieu du livre prêt à appuyer ces expériences féminines.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, à la réalisation de June Loper, avec la collaboration de Thierry Beauchamp et avec nous Michel Le Clément et Michel Journe dans les pas de Louise Labbé, donc puisqu'il dirige l'édition de ses œuvres aux éditions Flammarion en poche. Œuvre publiée en 1555, lue, relue, en particulier au XIXe siècle, mise en musique et chantée au XXe siècle. Quand je suis quasi toute cassée et que me suis mise en mon lit lassée, crier me faut mon mal toute la nuit. Ce sont les derniers vers de Claire Vénus, le sonnet 5 de Louise Labbé, qu'on vient d'entendre ici, interprété par Anne-Sophie Fonauteur et mis en musique par Victor Ullmann. Qu'est-ce que Louise Labbé fait véritablement au sonnet ?
Au sonnet, formellement, elle ne va pas brutaliser la forme, elle va la respecter. La forme du sonnet qui s'impose, qui est en train de s'imposer depuis à peine 6 ans en France, à peu près, hein, depuis l'Olive de Du Bellay, depuis 1549. Donc elle va entrer dans cette forme, elle va couler sa parole d'amour, c'est-à-dire sa parole pétrarchiste, dans le moule. En revanche, ce qu'elle va brutaliser, c'est le discours pétrarchiste, le code pétrarchiste. Donc elle respecte formellement le sonnet, et majoritairement le sonnet français, plutôt que le sonnet italien d'ailleurs. Donc une forme déjà en train de se régulariser en France, comme chez Ronsard, comme chez Du Bellay, comme chez tous les grands poètes, tous les grands sonnettistes. Mais dans la forme du sonnet, elle va introduire des éléments qui sont tout à fait inattendus dans un contexte lyrique, comme l'ironie, comme une forme de grossièreté, dont elle est capable, ou de brutalité.
Par exemple ?
La grossièreté, c'est le fameux femelle. Hein. Tant de flambeaux, c'est le sonnet 2. Tant de flambeaux pour ardre une femelle. Ardre une femelle, hein. Chauffer la femelle, ça veut dire. Le mot femelle est tout à fait choquant, reste choquant à cet endroit-là, à la rime, qui plus est. Et ardre une femelle, c'est extraordinairement physiologique. C'est tant de flambeaux pour ardre une femelle, c'est dire que tous ces efforts de l'amant ne sont là que pour produire une excitation physiologique. Donc ça, c'est assez grossier quand même. Et c'est une ironie et c'est une mise à mal du discours masculin hein, qui vient d'être énuméré, de tous les codes qui viennent d'être énumérés dans le sonnet. Donc là, il y a une violence dont elle est capable. Et parfois, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus ironique.
Donc en fait, la question qu'il aurait fallu poser, c'est pas que fait Louise Labbé au sonnet, mais que fait Louise Labbé au pétrarchisme, je suppose. Qu'est-ce qu'elle en garde hein, et qu'est-ce qu'elle bouscule hein, Michel Jourde.
Ce qui me semble important aussi, c'est le dispositif du livre. C'est-à-dire que cette parole amoureuse, mise en vers, les 3 élégies, puis les 24 sonnets, donc évidemment, elle repose sur un déplacement en termes de genre, hein, que la voix féminine dit son amour pour un objet masculin. C'est inattendu en termes d'histoire culturelle de cette poésie-là. C'est souligné dans le livre par un sonnet qui insiste sur « c'est comme si l'or elle-même » avait pris la parole, c'était pas contenté d'être célébrée par Pétrarque.
De Pétrarque, hein, oui.
Voilà, mais qu'elle avait pris elle-même la parole. Mais surtout, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on lit tous ces vers après avoir lu le débat de Folie et d'amour, qui raconte les faits, qui décrit, en termes souvent très réalistes, les faits produits par l'amour sur les hommes et sur les femmes, avec l'idée que c'est un effet en partie commun. Et puis, différencier aussi, parce que la société le veut. Et le débat de Folie et d'amour est saisissant sur ça. Il nous raconte, par exemple, comment des femmes sont prêtes à abandonner leur vie domestique parce qu'elles sont amoureuses, qu'elles se mettent à vouloir faire de la musique, à vouloir faire de la poésie, etc. Voilà. Et donc, au moment où le lecteur découvre la parole poétique elle-même, il y a à la fois un effet de présence extraordinaire de cette voix qui a une forme de simplicité, de brutalité, comme disait Michel. Et en même temps, c'est une expérience de la distance parce qu'on s'est figuré ce que c'est que se mettre à faire de la poésie. Et ça, c'est une expérience de lecture très singulière que n'offrent pas généralement les livres de poésie au XVIe siècle, ou qui sont des livres purement de poésie, mais qui n'utilisent pas cette forme de... On pourrait dire d'objectivation. Quoi, qu'est-ce qui pousse une femme à chanter ou à faire des vers ? Et le livre arrive à l'évoquer, à le décrire.
Donc en fait, c'est ce qu'elle dit quand elle écrit « Le plus grand plaisir qui soit après l'amour est d'en parler ». Finalement, il est davantage question de ça que d'amour. Alors évidemment, il est question d'amour, mais il est véritablement question... d'écrire. Il y a d'autres choses qui peut-être la distinguent aussi de Pétrarque, je pense notamment à la dimension. Alors, c'est évidemment, Pétrarque, c'est une voix absolument masculine et un schéma amoureux tel que vécu par les hommes regardant des femmes. Mais c'est aussi la question de la spiritualité qui semble assez peu irriguer l'ensemble des poèmes, enfin pas seulement des poèmes d'ailleurs, mais en tout cas des textes et des écrits de Louise Labbé. Ça aussi, c'est quelque chose qui bouscule, ça c'est quelque chose qui surprend.
Oui, c'est très surprenant pour deux raisons. À cause de la folie, encore une fois, hein, qui est ce personnage amené mythologique dans le débat de folie et d'amour. Folie, normalement, dans un contexte platonicien, la folie, le fureur, la manie, c'est quelque chose qui emmène vers le divin, vers l'enthousiasme, vers la proximité avec les dieux. Or, la folie, comme vient de le dire Michel, la folie chez Louise Labbé, c'est une manifestation sociale d'une forme de désordre, mais de désordre joyeux, de désordre actif, qui va produire du lien social, qui va produire de l'activité. Donc, chez Louise Labbé, il n'y a pas cette dimension platonicienne, néoplatonicienne. La folie, c'est simplement un dérèglement social et physiologique. Naturel. Elle emploie le mot naturel pour parler de folie. Hein. C'est tout sauf surnaturel. Et ensuite, on va retrouver ça, du coup, dans la poésie, où la poésie va dire le désir, mais ce désir ne sera jamais un marchepied pour une élévation spirituelle. Comme il peut l'être chez Du Bellay, par exemple, hein, chez d'autres poètes beaucoup plus platoniciens, néo-platoniciens dans leur usage de l'amour.
Elle écrit dans le texte liminaire, elle commence même avec le fameux « étant le temps venu ». Mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée, à y celle à prendre, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir, et si quelqu'un parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement et non dédaigner la gloire et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. On a envie de continuer à lire l'ensemble. Et un peu plus loin, je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames que d'élever un peu leur esprit par-dessus les quenouilles et fuseaux. De quoi l'écriture est-elle finalement le lieu chez Louise Labbé, Michel Clément?
Le lieu de l'identité, justement. Elle vient, dans les phrases que vous venez de lire, elle vient de récuser des signaux de féminité qui ne sont pas nôtres, sinon par usage. Les robes, les anneaux, les somptueux habits, les quenouilles, les fuseaux, ce sont des instruments d'une féminité purement construite, mais qui sont accidentelles. L'essence féminine n'est pas là. Donc elle est en train de produire un discours de critique genrée pour dire que la femme, une femme, est là où elle est capable d'une autonomie de pensée et de création. C'est pas les bijoux, c'est pas les vêtements, c'est pas les parures, c'est l'écriture, c'est la conception par écrit, c'est l'expérience même de la poésie qui va donner une identité féminine très loin de tous les standards de la féminité.
Avant de nous quitter, s'il fallait lui donner le mot de la fin, qu'est-ce que vous voudriez citer d'elle, hein? Et avant qu'on commence l'émission, vous m'aviez dit que vous connaissiez tout par cœur.
Tout par cœur. Deux vers d'une élégie. Tu es tout seul, tout mon mal et mon bien. Avec toi tout, et sans toi je n'ai rien.
Les œuvres de Louise Labbé ont paru aux éditions Flammarion dans la collection de Poche GF. Michel Clément et Michel Jourde, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France. Poésie et ainsi de suite s'écoute en partenariat avec la Croix Lebdo. Et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.